الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de nous réunir pour ce type d'assises dans lesquelles nous nous efforçons d'étudier ensemble et d'apprendre notre religion et les bases et les fondements de notre religion. Nous avons commencé cette série de cours qui va durer, Inch'Allah, jusqu'au mois de Ramadan par l'explication d'un épître qui est très court, qui est l'épître des quatre règles. Nous avons, dans les deux premiers cours, expliquer l'introduction, puis la première et la deuxième règle. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons finir cette épître en expliquant la troisième et la quatrième règle. Donc nous allons commencer à lire d'abord le texte en arabe, puis la traduction, et expliquer les sens essentiels à retenir de ce texte, Inch'Allah. Al-qa'idatu al-thalitha. Anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam zahara على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. Donc la troisième règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. Il y en avait parmi eux qui adoraient les anges, d'autres qui adoraient les prophètes et les pieux, d'autres adoraient les pierres et les arbres, d'autres adoraient le soleil et la lune. Malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit tous sans distinction. Ceci est indiqué par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. Et l'indication qu'il y avait des gens qui adoraient le soleil et la lune et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces merveilles, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les anges est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les prophètes est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, ô Issa, fils de Mariam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi !» Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est invisible ou imperceptible. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les personnes pieuses en dehors d'Allah est la parole. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les pierres et les arbres est la parole d'Allah. Que vous en semble des divinités Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième retardée, ou cette troisième autre. Ainsi que le hadith de Abi Waqid al-Layth, radiallahu anhu, qui dit, nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, alors que nous nous étions convertis depuis peu de temps. Les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et auquel ils accrochaient leurs armes, qu'on appelait Zatu Anwar. Nous passâmes auprès d'un arbre et dîmes. Ô messager d'Allah, donne-nous un dhat al-anwat comme eux en ont un. Jusqu'à la fin du hadith. Dans cette troisième règle, le cheikh, rahimahullah, a voulu montrer que peu importe les différentes manières par lesquelles les gens peuvent adorer autre qu'Allah, cela ne change rien à leur état. À partir du moment où une personne adore un autre qu'Allah, même si cette chose ou cette personne a un degré élevé auprès d'Allah, comme un prophète, ou comme un ange, ou comme un homme pieux, cela n'autorise pas de l'adorer, et cela ne change rien à l'état de la personne. C'est-à-dire la personne qui adore une pierre ou un arbre, ou bien elle adore un prophète, auprès d'Allah, les deux sont mécréants et les deux sont des polythéistes. Ce n'est pas parce que l'être adoré ou la chose adorée diffère ou qu'elle a un degré plus élevé auprès d'Allah que cela change quelque chose à son polythéisme. Cela ne justifie pas son polythéisme. Et ici, le cheikh a voulu citer des preuves du Coran, car tout ce qu'il a cité, ce sont des versets, sauf pour le dernier. Pour la dernière catégorie, là, c'était un verset et un hadith. Pour montrer qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a appelés au monothéisme pur, il y avait tout type de polythéistes. Certains qui adoraient les prophètes, certains qui adoraient les arbres, d'autres qui adoraient les anges, d'autres qui adoraient les pieux, d'autres qui adoraient les arbres, d'autres qui adoraient les pierres. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas différencié entre eux. Il les a tous considérés polythéistes et tous considérés comme mécréants. Et il les a tous combattus jusqu'à que le tawhid et le monothéisme pur prennent le dessus. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Et combat-les jusqu'à qu'il n'y ait plus de tentation. » La plus grande des tentations, c'est le polythéisme. et jusqu'à ce que la religion entière soit vouée à Allah, c'est-à-dire le monothéisme pur. Donc, nous n'allons pas répéter toutes les preuves que le cheikh a citées en cela, elles sont claires, et l'objectif de cette règle est juste de montrer que peu importe les choses ou les êtres qui sont adorés en dehors d'Allah, cela ne change rien sur le statut de la personne qui adore autre qu'Allah. Il sera considéré comme un polythéiste, comme Allah les a considérés comme tels, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a considérés comme tels à son époque, et il les a combattus. Donc ceci est vrai jusqu'à aujourd'hui. Toute personne qui adore autre qu'Allah, que ce soit un prophète, un ange, une pierre, un arbre, une tombe, peu importe, il sera considéré comme polythéiste. Puis il est passé à la quatrième règle. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc la quatrième règle, c'est la règle dans laquelle le cheikh dit, c'est que les polythéistes de notre époque, c'est-à-dire de l'époque à laquelle il est venu, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, et donc de son époque et des époques qui viennent après lui, sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens, que celui qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les anciens n'associaient à Allah qu'en période de prospérité. Par contre, en temps de difficulté, ils adoraient Allah exclusivement. Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent constamment à Allah, que ce soit en période de prospérité ou en période de difficulté. La preuve de cela est indiquée par la parole d'Allah, dans le sens, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc, voilà comment était l'état des associateurs en temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils étaient vraiment dans la grande peur, ils s'en remettaient à Allah seul, car ils savaient qu'il n'y a qu'Allah qui pouvait les sauver de cette grande situation. Mais quand ils étaient dans une situation de prospérité, alors ils donnaient des associés à Allah, en adorant les anges, les pieux, les pierres, les statues, les arbres, etc. Et on va voir dans l'explication que cette comparaison est très juste. Et on va voir 12 points dans lesquels les polythéistes de notre époque sont pires que les polythéistes de la première époque, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 12 différences. La première, c'est celle que le cheikh a citée. Que les polythéistes, anciennement, associé à Allah en période de prospérité, mais il lui vouait un culte pur en période de difficulté. Alors que les polythéistes de cette époque, il se peut qu'en période de difficulté, ils soient encore plus fervents dans leur adoration des morts, des saints, des tombeaux, ou des personnes ou des choses en dehors d'Allah. Donc ça, c'est une première différence qui montre que leur polythéisme est encore pire que celui d'avant. C'est-à-dire qu'ils associent à Allah en période de prospérité et en période de difficulté. Même en période de grande peur. La deuxième différence, c'est que les associateurs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam adoraient des êtres qu'ils considéraient être proches d'Allah ou bien des choses qui ne pouvaient pas désobéir à Allah, des choses inertes, comme des pierres et des arbres et autres. Alors que dans les polythéistes de cette époque, on peut trouver des gens qui adorent des pervers, des criminels, ou le Satan, ou le diable, n'est-ce pas? En sachant qu'ils sont mauvais, en sachant qu'ils sont nuisibles, en sachant qu'ils ne sont pas agréés auprès d'Allah. Mais ils les adorent par crainte de leur mal, par crainte de la croyance qu'ils ont en eux. Ils pensent qu'ils peuvent leur faire du mal et décider de leur avenir ou bien régir leur situation. Donc, ils ne les adorent pas parce qu'ils sont pieux, ni même parce qu'ils ne désobéissent pas à Allah. Ils les adorent tout en sachant que ce sont des pervers et des gens qui désobéissent à Allah. Mais par crainte et peur d'eux. Ça, c'est une différence manifeste. La troisième différence, c'est que les polythéistes du premier temps, ils savaient que leur polythéisme était contraire à la voie des prophètes. Car quand on leur disait d'arrêter, ils disaient, est-ce qu'on va laisser la religion de nos parents? Ou ils disaient, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule divinité? Ceci est quelque chose d'étrange. Donc, ils reconnaissaient que c'était contraire aux prêches des prophètes. Mais ils s'y attachaient parce que c'était la voie de leurs ancêtres. Alors que les polythéistes aujourd'hui, ils prétendent suivre la voie des prophètes. Et que ce qu'ils font est la religion avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième différence, c'est que les polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'associaient pas à Allah tabaraka wa ta'ala concernant sa royauté ou le fait qu'il administrait ou dirigeait le monde en général ou l'univers en général. Car il disait quand il faisait la talbiya, vous savez, c'est le dhikr que l'on fait quand on va faire le pèlerinage. Donc eux, ils faisaient le pèlerinage, car ils étaient sur une base de la religion d'Ibrahim alayhi salam, sauf qu'ils avaient dévoyé cette religion. Ils avaient innové. Ils l'avaient changé. Donc quand ils allaient faire le pèlerinage, ils disaient « Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. » Ils disaient « Nous répondons à ton appel, maintes et maintes fois, ô Allah, nous répondons à ton appel. Nous répondons à ton appel, tu n'as pas d'associé, sauf un associé qui t'appartient. » Tu le possèdes et tu possèdes ce qu'il possède. Donc, il considérait que Allah avait un associé, mais cet associé est sous le pouvoir d'Allah. Il est possédé par Allah. N'est-ce pas? Alors que les polythéistes aujourd'hui, quand ils sanctifient un ange, ou un pieux, ou un prophète, ou autre, ils pensent que cet homme pieux ou cette chose n'est pas possédé par Allah, peut diriger le monde de manière individuelle en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire il lui donne des spécificités de la seigneurie. Et c'est ce qu'on voit justement dans la cinquième différence, c'est qu'on voit que les polythéistes aujourd'hui, de ce temps, adorent leur divinité en dehors d'Allah de manière isolée. Alors que les polythéistes de l'ancien temps adoraient autre qu'Allah pour s'approcher d'Allah. Ils disaient, on les adore pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La sixième différence, c'est que la grande majorité du polythéisme par lequel ils associaient à Allah au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'adoration, dans la divinité. Tawhid al-uluhiyya. Mais aujourd'hui, et en dehors de la divinité, leur polythéisme existait dans les autres domaines, mais il était minime. Il était moins présent que dans la divinité, dans le fait de vouer le culte exclusif à Allah. Alors qu'aujourd'hui, on va trouver que le polythéisme est très répandu dans la seigneurie et dans les noms et les attributs d'Allah, en considérant que certaines de leurs adorations ou certaines de leurs divinités peuvent régir le monde, peuvent régir l'univers, peuvent décider de ce qui peut se passer. Donc ça, c'est une différence aussi manifeste. La septième différence, c'est que les polythéistes des derniers temps considèrent que adorer les pieux est un devoir et leur droit. En disant, ils cachent cette adoration en disant qu'on les aime. C'est-à-dire qu'ils appellent cette adoration l'amour. Mais en réalité, c'est une adoration. Car ils les invoquent en dehors d'Allah. Ils sacrifient pour eux en dehors d'Allah. Ils se prosternent à eux en dehors d'Allah. Ils circumbulent autour de leur tombeau en dehors de l'adoration d'Allah, qui a légiféré cela juste autour de la Kaaba. Et ceci n'existait pas chez les polythéistes de l'ancien temps. La huitième différence, c'est que les polythéistes de l'ancien temps, ils reconnaissaient leur polythéisme. Et c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas dire « la ilaha illallah ». Car ils savaient ce que ça voulait dire « la ilaha illallah ». Ils savaient que ça voulait dire qu'ils doivent renier toutes les divinités adorées en dehors d'Allah. Que ces divinités ne méritent pas l'adoration. Et ceci, on le voit dans la talbiya qu'ils faisaient quand ils allaient au pèlerinage. Ils reconnaissaient qu'ils donnaient des associés à Allah, car ils disaient « Labbayka la sharika laka illa sharikan huwa lak » sauf un associé qui t'appartient. Donc ils reconnaissent qu'ils associent à Allah. Eux-mêmes, ils l'ont appelé associé. Alors que les polythéistes qui sont venus après, c'est-à-dire ceux d'aujourd'hui, ceux des derniers temps, ils ne reconnaissent pas qu'ils donnent des associés à Allah. Au contraire, ils considèrent qu'ils sont monothéistes. Et ils disent « La ilaha illallah » tout en reniant son sens. Donc les premiers polythéistes, ils reconnaissaient le sens de « La ilaha illallah », c'est pour ça qu'ils ne le prononçaient pas. Et les polythéistes des derniers temps, ils disent « La ilaha illallah », mais ils en contredisent le sens. La neuvième différence, c'est que les polythéistes de l'ancien temps espéraient que leur divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah allait régler leurs affaires mondaines. C'est-à-dire qu'ils se dirigeaient vers eux que pour des affaires mondaines. Alors que les polythéistes des derniers temps se dirigent vers leur divinité pour des affaires de l'au-delà, pour entrer au paradis, pour les protéger de l'enfer. La dixième différence, c'est que les polythéistes de l'ancien temps donnaient de la sacralité et de l'importance au rite d'Allah. Ils donnaient de l'importance à jurer par Allah. Et ils protégeaient celui qui demandait protection au nom d'Allah. Et ils avaient la croyance que la maison sacrée était une maison sacrée où il ne fallait pas commettre de crimes dedans. C'est-à-dire à l'époque des Arabes, de l'époque anti-islamique, s'il rencontrait le tueur de son père dans les limites sacrées, il ne le touche pas. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le respect pour les rites sacrés. Alors que les polythéistes des derniers temps, ils peuvent jurer par Allah et mentir, alors que quand ils jurent par autre qu'Allah, ils n'arrivent pas à mentir. Ils peuvent jurer par Allah et mentir, mais quand ils jurent par sa divinité qu'il adore en dehors d'Allah, alors là, il ne ment pas, il a peur. Et ils n'ont pas autant d'importance pour les rites sacrés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne donnent pas d'importance pour les rites sacrés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La onzième différence, c'est que les polythéistes de l'ancien temps, ils ne demandaient pas à leur divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah toutes les choses qu'ils demandaient aussi à Allah, au miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Il y a certaines choses qu'ils demandaient à leur divinité en dehors d'Allah, et d'autres choses qu'ils ne demandaient qu'à Allah. Alors que les polythéistes des derniers temps demandent et invoquent leur divinité en leur demandant toutes les mêmes choses qu'ils pourraient demander à Allah ou qu'ils demanderaient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la douzième et dernière différence que l'on cite, c'est que les polythéistes des derniers temps, certains d'entre eux prétendent qu'Allah se représente ou bien s'intègre ou entre dans les, dans les images qu'ils créent de leurs adorations, de leur divinité. Alors ils disent, on les adore, car Allah tabaraka wa ta'ala s'est manifesté en lui. Ils disent, Allah s'est manifesté dans notre statue. Allah s'est manifesté dans cette pierre, dans telle chose ou dans telle personne même. Alors que les polythéistes de l'ancien temps ne disaient pas cela. Voilà certaines différences. Donc on a cité 12 différences. Donc voilà ces 4 règles que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a exposé, qu'il a tiré du Coran et de la Sunna, pour montrer, pour comprendre le polythéisme. L'objectif de comprendre le polythéisme et de comprendre son danger, c'est parce qu'il annule le monothéisme, le tawhid, ce pourquoi Allah nous a créé, subhanahu wa ta'ala. Donc si on ne connaît pas ce qui annule le tawhid, si on ne connaît pas le contraire du tawhid qui est le shirk, on ne peut pas connaître correctement le tawhid. Donc on apprend son contraire et on apprend le mal pour s'en protéger. Barakallahu fikum.